fait bizarre hein, parce que la dernière fois que j'ai fait le message, j'avais un pare-brise devant moi. Donc voilà. Mais je préfère vous voir. Hein. Et ça a poussé aussi. Ouais. C'est une chose qui ne change pas, c'est notre Dieu. Il est merveilleux. Et ce qui nous a transmis et enseigné par la parole de ses apôtres, et puis par la parole qui nous est transmise par la Bible, elle ne change pas. Et c'est ce qui nous permet toujours de siècle en siècle, mais d'année en année, depuis 2000 ans, de partager la vérité. Elle ne change pas. Alors c'est l'introduction que j'ai pu suivre avec Michael, mais beaucoup de choses ont été dites ce matin. Merci Seigneur, parce que pour moi il confirme, mais en même temps il ouvre déjà les cœurs hein, à recevoir. C'est pour ça que vous êtes venus ce matin. Venus pour recevoir. Et pour recevoir, il faut écouter, entendre. Alors, ça fait quelque temps que je suis dans l'Épître aux Colossiens, donc c'est ce que nous allons prendre. Et donc j'ai demandé à être dirigé par le Seigneur pour montrer un enseignement pour ce matin, dans cette lettre. Donc on va ouvrir notre Bible à la lettre destinée aux Colossiens, pas l'apôtre aux Colossiens, mais également pour nous ce matin. Comme je disais, aussi bien elle parlait pour eux dans les années, je ne sais pas, été vérifié, mais 60 peut-être, 40, 50, 60, quelque chose par là, aussi bien elle nous parle pour nous ce matin. Quand vous prenez votre Bible chez vous, elle vous parle. Elle vous parle à vous personnellement. Seigneur vous parle personnellement. Quand tu as des interrogations, il te parle personnellement. Et surtout, comme disait Michael, mais on en reviendra tout à l'heure aussi un peu, j'ai eu ça dans la préparation, c'était pas vraiment dans mon texte pour ce matin, mais parce que j'ai des difficultés avec la prière. Et j'ai compris ça, comme il vient de le dire, comme il a cité. C'est pas de vouloir prier, c'est de prier en conséquence de ce que l'on a reçu. Hein? Dieu est merveilleux, Seigneur est merveilleux. Donc, Paul apôtre, aux Colossiens. Alors j'ai imprimé, hein, je ne prends pas habit, mais j'ai imprimé le texte. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ, qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Donc on va s'arrêter là, parce qu'en fait, dans l'Épître aux Colossiens, le Seigneur a permis de préparer en fait quasiment trois prédications. On va dire deux. Donc on va prendre cette première chose. Verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Et un peu plus bas, il est dit, il porte des fruits depuis le jour où vous, ou tu as entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Si je devrais donner un titre à cette prédication, je dirais « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Ça pourrait être le titre. Je pense que ça va être celui-là. La question pour nous ce matin, et enfin les questions, mais qui amènent à une question, Est-ce que nous avons entendu et connu la grâce de Dieu? C'est ce que nous dit le texte. Est-ce que nous avons entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité? Est-ce que notre espérance, ton espérance, est fondée sur quelque chose de solide? Autrement dit, sur quoi ou qui nous nous appuyons pour notre espérance de vie future? Car il est écrit au verset 5, l'espérance qui vous est réservée où? Sur la terre? Dans les cieux. Et cette espérance que le Seigneur va nous donner ou te donner, c'est pas pour ce... Bien sûr, il est déjà là, ce qui nous fait vivre. Mais c'est pour dans les cieux, dans le futur. C'est sur ce que l'on a entendu que nous fondons notre foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et notre espérance, depuis notre plus jeune âge, ou peut-être depuis peu de temps, notre pierre angulaire sur quoi nous bâtissons notre vie, entre guillemets religieuse, notre vie de piété, c'est plus le mot, celle qui est le commencement de notre vie pour l'éternité. C'est de cela dont il est question. Et cette espérance doit être sûre et certaine. Notre départ de cette lettre, de cette terre, pardon, avant le départ de cette terre. Il n'y a pas d'a priori. Il n'y a pas de « oui, je veux bien parce que » Notre espérance, elle est fondée, solide. Est-ce que c'est le cas dans ta vie? Est-ce que c'est le cas pour toi ce matin? Il nous faut donc ce matin se repositionner au regard de la parole, la Bible, qui est le fondement solide pour connaître notre condition première, celle de tout humain naissant sur cette terre, et détruire par là quelques faux enseignements sur lesquels peut-être tu as fondé ton espérance et de ce fait ta destinée éternelle. Et cela t'a peut-être amené dans un faux départ. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Est-ce que tu veux commencer ce chemin ce matin? Alors on va sortir. On va sortir de la ville, du bruit environnant, des incertitudes, des a priori. La question c'est déjà, as-tu besoin d'une espérance pour aller au ciel? Quelle est ta destinée? La destinée de chacun, de chaque humain qui naît sur cette terre, c'est quoi? C'est la mort. Nous ne pouvons que le constater par nous-mêmes. Nous n'avons pas la vie éternelle sur cette terre. Nous sommes confrontés durant notre existence à la disparition de nos bien-aimés. Et dans ces temps d'incertitude sur la durée de notre vie due aux maladies, aux virus en tout genre, sida, cancer, Covid, accident mortel, meurtre. Mais qu'est-ce que la mort? C'est quoi la mort? La séparation avec la vie? Cela semble logique. Quand nous voyons un corps sans vie, nous disons il est mort. Et c'est vrai. Mais la Bible nous parle de deux morts. La première que nous pouvons constater chacun, chacune. Et la deuxième mort, qui est aussi là, la séparation pour l'éternité de la vie. Ou plutôt de celui qui est la vie. Apocalypse 5, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toute chose nouvelle. Il faudra quelque chose de nouveau. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est Jésus. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Tu as soif? Viens à moi, Jésus l'a dit, viens à moi. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils ou ma fille. Mais pour les lâches, les incrédules, ceux qui ne croient pas, les abominables, et on a plein de démonstrations dans la parole, les meurtriers, les impudiques, ceux qui n'ont pas de pudeur, les enchanteurs, les idolâtres. Et j'ai entendu ce matin qu'on a pu vénérer des autres dieux que le vrai Dieu. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Écoutez bien, ce qui est la deuxième mort, la séparation pour l'éternité d'avec la vie. La vie sur cette terre n'est pas le fruit d'un pur hasard, comme l'on voudrait nous le faire croire. Sortons de cette ville. On sort, on passe la porte. Vous me suivez? Mais elle est venue, la vie. Elle a été donnée par celui-là même qui est à l'origine de toute chose, sur terre, et d'une manière générale de tout ce que nous pouvons voir dans la création. Dieu. Dieu t'a créé. Dieu t'aime. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et au commencement dans ta vie, Elohim, Dieu, va créer quelque chose ou veut créer quelque chose dans ta vie, dans cette terre qui est ton cœur. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il va recevoir ce matin? Dieu a donné par sa parole naissance. Dieu a donné par sa parole naissance ou existence à toute chose. Et par sa parole, la vie. La condition du premier homme et de la première femme sur cette terre n'était pas de mourir. Mais par leur désobéissance, ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés de la vie. Et donc, de la vie. Mais non seulement eux, écoute bien, non seulement eux, mais toute la postérité qui descend de Adam et Ève. Voici une vérité. Tu ne descends pas du singe. Tu ne descends pas du singe. Tu descends d'un homme et d'une femme qui étaient aimés par Dieu et qui ont désobéi. Et par la désobéissance, ils sont morts, séparés, chassés de la présence de Dieu. Toute la postérité qui descend d'Adam et Ève, les humains, et comme le dit la Bible, les hommes, donc nous. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Est-ce que tu te mets dans ces tous? La Bible dit, j'ai péché. La Bible dit, tu as péché. Pas d'espoir pour le pécheur, celui qui est ennemi de Dieu. Par ses mauvaises pensées, ses pensées qui l'amènent à accomplir des actions, ou ce que la Bible appelle des œuvres mauvaises. Nous aussi, de par notre nature, nous avons désobéi à Dieu. Et nous avons manqué le but, c'est ce que veut dire péché. C'est extraordinaire parce que, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans le monde séculier, j'apprends des mots depuis que je dis, dans le monde séculier, on utilise les mots de la Bible. Anodin ou pas, c'est avoir. On veut faire dire, tiens, la Bible, oh là, c'est des mots. C'est pas que des mots, c'est la parole de Dieu. Pour le foot, souvent on dit, il a péché. Il a manqué le but. Et nous avons tous manqué le but, donc nous avons tous péché. Ce but qui devrait être de tous à chacun et chacune de glorifier notre Créateur, Dieu, dans notre corps et dans notre âme. En cela et par cela, nous sommes déjà morts. Le salaire du péché, c'est la mort. Spirituellement même, séparés de la vie. Ephésiens 2:1, vous étiez morts. Et le mot mort, c'est nécros. Ça signifie un cadavre, un mort, sans vie. L'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens. Il y a un très grand parallèle entre Éphésiens et Colossiens. D'ailleurs, pour moi, je pense très fortement que c'est la lettre qui devait attendre de la Odyssée. Puisque Éphèse, c'était une lettre, la lettre aux Éphésiens, c'est une lettre circulaire. Nous sommes des cadavres, nous dit Paul. Il fait là le rapprochement de la mort terrestre avec celle spirituelle. Vous étiez mort, il dit l'apôtre Paul. Tu es mort, il te dit, tant que tu n'as pas la vie. Voyez-vous le rapprochement entre le terrestre et le spirituel? Les deux morts? Comment? Par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, ou que l'on marche peut-être aujourd'hui, selon le train, écoutez bien, c'est important pour la suite, le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Par notre condition de pécheurs, nous sommes sous la colère de Dieu. Et de plus, nous sommes liés, obéissant à la puissance de l'air. Vous entendez ? On obéit, tant qu'on n'est pas libéré, à la puissance de l'air qui est un esprit, celui de Satan, qui agit dans ce monde. Esclave donc du péché et de ce fait de celui qui a la puissance de la mort, c'est dans la Bible, hein, je ne cite pas tous les versets, hein, mais ils sont dits, c'est-à-dire le diable. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Ce qui donne la mort, c'est le péché. Mais Satan détient la puissance de la mort, c'est-à-dire qu'il utilise ça pour nous faire pécher, la loi. Car il nous tente par les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et nos pensées. Comment ? En désobéissant à la loi divine, qui est bonne. Les 10 commandements, on peut les prendre. On ne va pas les prendre ce matin, ça va prendre trop de temps. En fait, j'ai déjà réfléchi, s'il faut, on prêche jusque 3 heures. La loi est bonne, mais nous n'avons pas la puissance, la capacité de lui obéir. Et elle est là pour nous mettre en évidence notre désobéissance. Car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, en faisant les œuvres que la loi demande, parce que nous ne sommes pas capables. Et même si nous avons fait, sur les 10 commandements, hein, comme on résume, si on en a fait 9 et qu'on échoue à 1, alors on a échoué. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. As-tu encore de l'espoir ? Il me fallait, ce matin, repositionner au regard de la parole, afin de rappeler, comme je le cite dans l'introduction, révéler notre condition première, celle de tout humain naissant sur cette terre. Mais, et merci Seigneur, dans sa parole, il met un « mais ». Tout comme la parole nous révèle notre condition de pécheur en face de Dieu, elle nous donne également la révélation et le moyen pour être sauvé. As-tu besoin d'être sauvé ce matin ? As-tu besoin ? Si je résume, nous avons entendu notre condition au regard de ce que nous avons d'apprendre. On est séparé de la vie et donc on est mort. Nous sommes malades d'une maladie qui mène à la mort, le péché, et nous sommes spirituellement morts. Nous sommes ennemis de Dieu, sous sa colère, sous son juste jugement, condamné par la loi divine. On continue le chemin ? On continue ? Alors, excusez-moi, mais je bois un petit coup. Le ciel s'est certainement assombri ce matin. Même si dehors il fait beau aujourd'hui, le ciel s'est assombri. Et c'est normal. On va avancer vers ce ciel qui s'assombrit ? Est-ce que tu vas avancer ? On va avancer sur ce chemin resserré, parce qu'il va nous mener à quelque part. Va jusqu'au bout. On regarde notre condition, alors que faire ? Ou comment faire ? Je ne suis pas occupé de faire le petit lapin. Si je mets entre guillemets, c'est parce que je dis, mais ce n'est pas ça. Je mets faire entre parenthèses, car voici déjà une grande erreur, une fausse doctrine, qui est parfois enseignée, et que parfois on peut peut-être même revenir, parce que c'était le but aussi de la lettre de Colossiens. Un faux enseignement, sur lequel peut-être tu as fondé ton espoir d'aller au paradis, d'aller dans la maison de Dieu, comme on a chanté tout à l'heure. L'espérance de se racheter, donc de faire, de se racheter de nos offenses et de la même manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. J'ai entendu une prière ce matin qui disait « J'ai suivi dans le temps passé les idoles de mon père et de ma mère ». Peut-être que ce matin, tu es là et que tu as entendu des choses quand tu étais jeune qui ne sont pas fondées sur la parole. En faisant des bonnes œuvres pour se racheter de tes mauvaises actions, de tes péchés, au lieu de recevoir. Pas faire, mais recevoir. La justice parfaite accomplie par Jésus-Christ. En effet, nous ne sommes pas en capacité de faire quoi que ce soit de bon. Et c'est une des choses aussi. Tu es fatigué et tu es chargé ce matin. J'ai eu ça cette semaine. Tu es fatigué, tu es chargé parce que tu veux faire et faire et faire et faire. Mais ce n'est pas faire, c'est recevoir. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour ton âme. C'est pas le travail de ta semaine qui parle là. Hein. C'est viens à moi, Jésus dit, et je te donnerai du repos pour ton âme. On peut rien faire de bon, normal, on est mort. Et un cadavre, ça sent pas bon. De plus, tout ce que nous voudrions faire pour nous justifier, c'est-à-dire nous déclarer justes, n'est que vêtements souillés aux yeux de Dieu. Alors, quelle est notre espérance? Quel espoir? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans la suite de la lecture, parce que le Seigneur est bon. Amen. Seigneur est bon. Il doit nous amener à un endroit que je suis chargé ce matin de nous amener. Et là, tu verras la bonté de Dieu. Premièrement, il y a quatre choses dans le Bible, dans Colossiens. L'initiative vient de Dieu le Père. Verset 12, on s'en va déjà là. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Je vais un peu vite dans mon... L'initiative vient de Dieu le Père. Selon le bon plaisir de sa volonté. Tu entends? Dieu va prendre plaisir à te sauver. Le bon plaisir de sa volonté qui est de nous sauver. Nous sauver de quoi? De la déclaration de son juste jugement qui nous condamne et nous mène à la perdition. Notre Dieu est un Dieu juste. Il est donc, il juge avec justice. Et notamment notre désobéissance. Mais dans son amour, il veut aussi sauver le pécheur. Si tu es pécheur, alors tu peux être sauvé. Si tu crois que tu n'es pas pécheur, alors je suis désolé, mais pas moi, mais Dieu ne peut rien pour toi. Il va donc nous rendre capables. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, c'est-à-dire de retourner. C'est pas qu'il nous rend capable de le faire. C'est que lui va faire en sorte, on aura la suite, de nous faire retourner dans sa présence. Nous délivrer, puisque nous sommes liés, de la puissance des ténèbres, de la puissance de la mort, qui nous a délivrés donc de la puissance des ténèbres. Nous transporter du monde des ténèbres, et on l'a entendu ce matin, dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Comment? C'est le deuxième point. Écoute bien, le moyen de salut vient de Dieu, le Père, par son Fils. Nous allons avoir la rédemption. Nous avons besoin d'être rachetés. Nous ne pouvons pas nous racheter. Nous allons avoir la rédemption, le rachat de nos péchés. et le pardon de nos péchés. En qui ? En Jésus-Christ. Par le Fils de son amour. Un puissant sauveur qui nous délivre de la colère à venir. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Dieu ne nous destine pas à la colère. Ce n'est pas son cœur. Son cœur est de nous sauver. Mais par notre comportement, par nos mauvaises pensées, nous sommes destinés à la colère. Et la colère est sur nous. Mais l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui est mort pour toi. Qui est ce Fils ? Et là, ça rejoint aussi la présentation. Qui est ce Fils ? Verset 15. Voilà ce qui nous amène, si je reviens là-dessus, à le louer. Et donc prier. Qui est ce Fils ? Il y a un petit chant qui m'est venu. J'ai juste le début, j'étais allé voir sur Internet vite fait tout à l'heure. José doit bien le connaître. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. Terre et les cieux. Tout dit qu'il est merveilleux. Qu'est-ce qu'il nous dit, qui nous montre qu'il est merveilleux ? Sa parole. Tu ne pourras pas connaître Jésus, tu ne pourras pas connaître Dieu si tu ne lis pas la parole. C'est elle qui nous révèle qui il est. Et tout nous dit qu'il est merveilleux. Là, le verset, il nous dit, il parle de Jésus, hein, son fils. Il est l'image du Dieu invisible. Il est donc Dieu. Jésus est Dieu. Il était la représentation même de Dieu sur terre. Nous, on ne peut plus le voir maintenant. Mais si, on le voit encore par sa parole et par à l'intérieur. Sa parole qui va nous révéler, qui va nous mettre en lumière sa personne. Il est donc Dieu fait chair. Le premier-né de toute la création. Il est préexistant. Il existe de toute éternité. Dieu n'a pas créé Jésus. Jésus était présent en Dieu, avec Dieu, la parole faite chair, Jean. Je dis ça, c'est parce que, mais c'est pour la prochaine prédication. Les faux enseignements. Témoins de Jéhovah disent que Dieu a créé Jésus et Jésus a créé les humains. Non. Jésus était déjà présent avec Dieu. Jésus est Dieu. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui, par lui et pour lui, Jésus. Il est donc souverain, roi de toute éternité. Il existait, il est, il est, il est, il est. D'ailleurs, c'est ce qu'il a amené à la croix. Bon, par les religieux, mais parce qu'il s'est dit qu'il est. Il est avant toute chose, écoutez bien. Écoute bien. Parce que c'est une réponse déjà. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste, tient vie en lui. La vie étant son Fils Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Ce qui nous amène au troisième point, le moyen d'être sauvé. Le moyen de salut est en lui, Jésus-Christ, et par lui. On continue la marche. On va aller vers le ciel de plus en plus noir. Mais après, il y a la lumière. Et là, on va commencer à monter. On doit monter une montagne. Il a voulu par lui, Jésus-Christ, réconcilier. Nous sommes sous la colère de Dieu. Tu es sous la colère de Dieu. Mais ce matin, tu peux être réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Vois-tu pourquoi tu vas être libéré ? Que tu n'auras plus ce poids sur toi, le poids de la culpabilité, le poids de la honte, parce qu'il va te libérer et il va te donner la paix avec Dieu. Et là, on voit, nous avons de nouveau la volonté. C'est Dieu qui a décidé. Dieu le Père a voulu, par Christ, se réconcilier avec le monde. Comment ? En faisant la paix par Jésus-Christ. Par le sang de sa croix, il nous est dit. C'est le texte. Hein ? Verset 20. J'avais oublié de le marquer. Par le sang de sa croix. Et là, nous arrivons à la montagne. Et sur cette montagne, il y a une croix. Et le ciel, il est noir. Et pas un petit peu. Tout s'est assombri. Golgotha, le lieu du crâne. Le poteau du jugement. Là où Jésus a subi le châtiment. Là où Jésus a été blessé pour nos transgressions, nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, toi avec Dieu, est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a subi le châtiment, il a subi le jugement de Dieu pour le péché, en toute volonté. Il est l'agneau qui s'est donné délibérément pour toi, pour prendre la colère de Dieu sur lui. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Il a été élevé sur cette croix, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On les connaît, ces versets. Mais est-ce qu'elles parlent ce matin ? Est-ce que ces paroles, comme un marteau, viennent briser le mur pour laisser entrer la lumière ? Afin que quiconque... Dieu est mort, pardon, en même temps, oui, mais Jésus, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, ça sera son prochain retour, parce qu'il va revenir. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Veux-tu être sauvé ce matin ? C'est par lui. C'est pas faire, c'est recevoir. Celui qui croit en lui, ah, nous avons autre chose. Il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il n'a pas cru qui est Jésus. Il n'a pas cru pourquoi il est venu. Et notamment qu'il est venu pour chacun de nous. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde. Étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ils préfèrent leur péché. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Veux-tu ce salut ? Le salut, comme nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le salut est pour tous, mais que pour toutes ceux et celles qui le recevront au lieu de faire. Il est effectif, c'est-à-dire il prend effet ou il t'est imputé, mis à ton compte, que si tu le reçois pour toi-même. Voyez-vous, on entend assez dans notre jeunesse, Jésus est mort pour nous, Jésus est mort pour nous, Jésus est mort pour le monde. Jésus est mort pour toi. C'est une grande différence. Il a subi le châtiment pour toi. Et c'est le quatrième point. Le salut est individuel, par grâce, par le moyen de la foi. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, nous est-il dit. Reconnaître que tu es sous la condamnation et sous le jugement de Dieu. Reconnaître, ça nous dit quelque chose. C'est quelque part se repentir. Oui. Seigneur, j'ai fait ça. Moi, je ne connais pas ton cœur. Lui, le connaît. Hein. Moi, je ne connais pas. Mais Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai menti. J'ai volé. Oh, c'est pas grave, dit le monde. Tout le monde le fait. Si, c'est très grave. Enfin, il faut expliquer le péché, mais c'est autre chose. Reconnaître que tu es sous la condamnation et sous le jugement. Juste jugement de Dieu. C'est le repentir. Mais aussi croire en l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ par sa mort à la croix pour toi. Je vais essayer d'expliquer. À la croix, tu la vois cette croix sur la montagne? Tu la vois? Ce n'est pas juste la croix, c'est celui qui est dessus. Hein. Et on a un exemple dans le psaume 22 de comment il était. Hein. On a vu ça un mardi soir. Rouge. Ce corps sur la croix est rouge. Meurtri. À la croix, nous avons le jugement de Dieu et le moyen de grâce qui nous est offert. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Mais tout vient de Dieu. C'est ce que j'ai dit avant. Tout vient de Dieu. C'est le don de Dieu, le don de la justice de Christ qui nous a acquis pour nous. Le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes propres œuvres afin que personne, dont toi-même ou moi-même, nous pourrons nous glorifier, mis à part de nous glorifier comme on l'a fait ce matin de notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, il y a le jugement. Et à la croix, il y a le moyen de salut. C'est-à-dire qu'à la croix, nous avons le témoignage contre ceux qui sont perdus. Nous avons le témoignage qu'il y a un jugement. Dieu a jugé. Dieu juge. Mais à la croix témoigne donc aussi pour ceux qui sont sauvés. Le moyen, l'amour de Dieu. À la croix, nous avons le jugement. À la croix, nous avons l'amour. La justice et la bonté se rencontrent. À la croix, Christ a pris ton jugement, ta condamnation, si tu le reçois, si tu crois en son nom, si tu crois pour toi, lui pour toi, et pour tous ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils sont déjà jugés. C'est ce qui nous était dit avant par le texte. Ils sont jugés et condamnés à la hauteur de ce que Christ a pu subir à la croix. Autrement dit, tous ceux et celles qui ne croient pas qui est Jésus, leur condamnation est mise déjà à la croix aussi. Ils témoignent contre eux qu'il y aura un jugement qui sera autant que ce que Jésus a reçu. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est que on peut amener ça dans notre évangélisation. Dieu va juger, oui, il l'a fait. Il l'a fait à la croix. Il fallait qu'il juge le péché. Il l'a jugé pour ceux qui croient sur Jésus-Christ. Mais pour ceux qui ne croient pas, ben ils ont l'exemple de ce qu'ils subiront eux-mêmes en enfer. La foi. On est sauvé par le moyen de la foi, de croire. Est-ce que la foi est aveugle? Est-ce que la foi est aveugle? Non. On peut dire, bon ouais, tu crois. T'as la foi, tu crois en quelque chose. C'est de l'a priori, hein, c'est le mot qui m'était venu au début de la méditation pour ce message. Tu crois des choses, c'est pas fondé. Si la croix, la foi est fondée. Elle est fondée sur une promesse, comme on l'a entendu ce matin. Sûre et certaine. Parce que Dieu lui-même le dit. Dieu lui-même dit que si tu crois que je t'ai donné mon Fils pour toi ce matin, pour tes transgressions, alors également il y a la promesse. Que tu seras sauvé. Et même plus d'ailleurs. Parce qu'à la croix, Jésus n'a pas juste pris le péché. Il nous a libérés, déliés, pour commencer une nouvelle vie. Jésus-Christ, lui, notre lumière, est venu dans le monde pour éclairer. Oui, la foi est aveugle tant que Jésus ne nous a pas. On a des paraboles pour les aveugles nés, l'aveugle né. Jésus lui a ouvert les yeux, mais ce matin, tu entends? Tu entends? La lumière est là, elle rentre. Tu entends que Jésus-Christ est la lumière, que tu es sauvé par lui. Jésus-Christ est la lumière venue éclairer et nous amène à la connaissance de la vérité. C'est lui la vérité. C'est pas la religion. C'est pas les on dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend venant de la parole. Lis la parole. Je t'en supplie, lis la parole. Parce que c'est un salut individuel, elle te parlera à toi. Par la foi, l'espérance tire sa force qui nous est proposée ce matin. Par l'évangile. Je reviens à l'introduction de Colossiens. L'évangile de vérité. Pour être sauvé, il faut entendre la vérité. Pour être sauvé, il faut entendre qu'on est pécheur. Pour être sauvé, il faut entendre qu'on est mort. Pour être sauvé, il faut entendre que la vie est en son Fils Jésus-Christ. Voyez-vous, la foi, c'est pas juste « je crois ». La foi, c'est « je crois en qui et en quoi ?» Et en qui, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? L'évangile de vérité sur la révélation que donne l'Écriture, la connaissance venant de Dieu, la parole de vérité, la conviction que cette parole, ces paroles sont vraies. Est-ce que tu crois que cette Bible est la parole de Dieu, que Dieu a voulu te donner? J'ai pris ça ce matin, mais Jean 17, Jésus le dit, hein. Jean 17, 20. Recevoir les paroles de salut. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, il priait Dieu le Père pour ses apôtres, mais pour tous ceux et celles qui croiront en moi. Voilà la foi. La foi, c'est croire en celui. Si tu préfères, tu n'es pas sauvé parce que tu crois. Tu es sauvé parce que tu crois en celui qui te sauve. On pourrait dire, t'es sauvé? Bah ouais, je crois. Dans certains témoignages, c'est un moment que je peux apporter la parole à l'extérieur. On parle avec des personnes, je parle avec des personnes, et puis il faut écouter hein, quand des personnes parlent. Il faut essayer de les amener. Et blablabla, blablabla, blablabla. Ouais. Et tu vas au paradis? Ah, oh, je sais pas, je verrai bien. je peux me permettre à ce moment-là de leur dire, mais moi je sais où tu vas. Ah, tu vas en enfer. Ah bon? Ben oui, parce que si tu ne sais pas pourquoi tu vas au paradis, alors tu vas en enfer. Parce qu'on vient de le dire, la foi n'est pas aveugle. On va dans l'éternité, la vie éternelle, par Jésus-Christ. Si la personne ne peut pas me dire je vais au paradis parce que Jésus est mort pour moi, alors je peux penser que cette personne ne va pas au paradis. Parce que c'est lui le chemin. C'est lui la vérité. Et on va le voir, c'est lui la vie. Par la foi, nous saisissons cette espérance qui nous est proposée. Ce matin, elle te l'est proposée, cette espérance, la possibilité d'être sauvé. Et nous saisissons par la grâce qui nous est offerte. C'est même pas par nous. C'est Jésus. C'est Dieu. Il a tout fait. Juste ce que tu entends te donner ce matin. Te donner. Recevoir au lieu de faire. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul aux Romains. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Elle est là, cette parole, ce matin, dans ton cœur. C'est rentré. C'est la parole de la foi que nous prêchons. J'ai oublié, mais il y a cité un passage, Michael, de Ésaïe, et c'était surprenant dans les trois manières qu'ils étaient dites. Annoncées, accomplies, prédites, je crois. Dans Ésaïe, il est dit. Annoncées, accomplies et prédites, c'est-à-dire prêchées, comme ce matin, et depuis 2000 ans. Tout est accompli. Rien à faire. Juste à recevoir. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu, vous voyez, on a ce tu. C'est pas si le monde confesse, c'est pas si tu penses comme les autres. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et voilà encore la chose supplémentaire. Jésus n'est pas resté sur la croix, n'est pas resté mort, il est ressuscité, il est vainqueur. C'est ce qui te permettra d'avoir la puissance, c'est pour la prochaine fois ça. C'est la suite de Colossiens. Pour nous sauver, Jésus nous sauve par sa puissance, et ensuite il nous la donne pour pouvoir poursuivre. Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur. Mais bon, c'est dedans aussi. La foi n'est pas aveugle. Dieu utilise également l'intelligence. Ah oui, les paroles qu'on entend. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice que Jésus nous a donnée. En toute volonté, toi, ce matin, sans influence, sans personne derrière pour appuyer. Tu dois croire, hein, tu dois croire, hein, tu dois croire, hein. Je l'ai fait. Mais là, ça me dit non, fais pas ça. C'est en toute volonté. Sans son masque, je vois le sourire à Stéphane, c'est pour ça. En toute volonté. Oui. Des fois, on veut forcer. Hein. C'est le Seigneur qui fait. Ça vient de lui. Mais toi, tu reçois. Est-ce que tu reçois son amour ce matin? Parce que c'est ça. Hein. Pécheurs, on l'est tous. On est tous condamnés. Je suis... Non, je n'ai pas à m'excuser d'appuyer la chose. C'est la vérité. Oui, mais bon. Il y a pire que moi. Mais quand on croit, c'est marrant, on dit « je suis le plus sale ». Volontairement, sans influence, on est en connaissance, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, à un moment il prie, là j'ai pas repris le texte, mais il prie, prie pour toi ce matin, prie ça. On a entendu comment prier, prie ça. Prie le Seigneur de te donner la révélation par son esprit. Ayant une connaissance du salut par l'intelligence que donnent les Écritures. en amenant également avec les sentiments. Moi, je mettais ça un peu à l'écart à un moment. Avec tes sentiments dirigés vers l'amour de Dieu. Autrement dit, ton âme. Ça, c'est un petit peu enseignant, mais volonté, intelligence, émotion. On a vu ça le mardi aussi. Parce que c'est en confessant de ta bouche que tu parviendras au salut. Comme dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Je vais bientôt terminer. En lui, tout subsiste. Vous vous souvenez ? En lui, tout subsiste. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul plus loin. Christ, Norman Meaton, il le dit souvent. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Pourquoi Christ en vous, l'espérance de la gloire ? Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Et là, il dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais oui, en lui, tout subsiste. Je vais expliquer. Ça veut dire que la vie est en toi. Comment ? Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ça veut dire que la vie est en son Fils. En lui tout subsiste, il est la vie. Colossiens, c'est dans la même lettre, 2:12, voyez. Regardez, écoutez comment la vie vient. Par sa mort, nous avons la vie. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, alors c'est pas précisé, mais on l'a dit ailleurs, en sa mort, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Le baptême, c'est pas le baptême d'eau qui est question là. C'est que si tu crois, Dieu va faire une chose merveilleuse que lui seul peut faire. L'initiative vient de Dieu. C'est que, parce que tu crois que je t'ai donné ton fils, mon fils Jésus-Christ. Tu crois qu'il est mort pour toi à la croix. Alors moi, Dieu, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Que moi seul je peux faire, il dit. Tu vas mourir avec lui. Mais seulement tu vas ressusciter avec lui. Parce que Christ n'est pas resté mort. Vous êtes ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Ça veut dire que tu meurs avec Jésus à la croix, mais ensuite tu as une nouvelle vie en toi. Et ça, c'est ce qui te permet de dire Christ en toi, l'espérance de la gloire. Amen. Il vous a rendu, verset 2:13, à la vie. Avec lui, en nous faisant grâce. En te faisant grâce. Rien à faire. Pour toutes tes offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistaient contre toi. Et il l'a détruit où ? En le clouant à la croix. Sans la croix, pas de salut. Sans celui qui est la croix, pas de salut. Malheureusement, s'il y a une église qui ne prêche plus le sang de Christ, ni la croix de Christ, pas de salut. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, et on pourra en parler, hein, c'est en triomphant d'elles par la croix. Il se moquait. Et Jésus avec une chose en tête, toi. Moquez-vous, je vais pour sauver. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme par sa parole, en instruisant tout homme en toute sagesse, la sagesse que donne l'Écriture. Si la parole n'est pas dite dans une église, alors le salut n'est pas présent non plus. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Tes péchés sont lavés, ils sont jetés. Il y a plein de versets qui le disent, sont jetés au loin. Dieu, par Jésus-Christ, il te voit justifié, déclaré juste, laver des péchés. Après, il y a la sanctification. C'est pour la prochaine fois. Or, veux-tu ce matin saisir cette espérance, la seule qui t'est donnée, la seule qui est donnée ce matin, mais au monde entier. Rien ne sert de courir. Il faut partir à bois. Peut-être on a couru en vain. Peut-être que ce matin seulement on entend le seul moyen de salut qui est en Jésus-Christ. Il faut partir à point, commencer sur le fondement. Même pour ta vie, c'est le départ, Christ. Voici le point de départ. Pas quand on a quitté tout à l'heure ensemble, sortir de la ville. Parce que mon but était de nous amener au point de départ, la croix. Le départ également de la vie chrétienne. La porte pour l'éternité. Là est le commencement, la nouvelle vie qui t'est donnée par Jésus-Christ. Parce que tu deviens alors une nouvelle création, comme on l'a entendu dans une prière. Seulement là, tu deviens une nouvelle création, quelque chose que Dieu fait de nouveau, merveilleux, une créature merveilleuse et nouvelle. L'ancienne est passée et toute chose va devenir nouvelle. Un nouveau chemin aussi. Et là, on s'en va dans l'histoire, dans la conversion, le repentir et la conversion. Là, ce matin, tu as la croix. Il t'appartient. Je ne vais pas rentrer dans les autres histoires d'arbitre et tout ce qu'on veut. Moi, ce que la parole me dit, c'est que tu es devant la croix et tu as un choix à faire. Tu as entendu. Mais il t'appartient. Bah, fais demi-tour. Et tu connais les conséquences ce matin aussi. Une conversion, donc. Continuez. Pas faire demi-tour, pas retourner dans la ville. La croix. Mort pour tes péchés et te donner la vie en Christ. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. Seigneur, au regard de ce qui a été dit ce matin, comme le dit l'apôtre Paul, nous avons entendu et nous avons connu la vérité. Parce que tu veux qu'on entende toutes et tous la vérité. Et nous te prions ce matin de nous aider, parce que tout vient de toi, à franchir ce pas, à te recevoir comme notre Sauveur et Seigneur, afin, Seigneur, de commencer une nouvelle vie avec toi, parce qu'en toi est la vie. Merci pour toutes ceux et celles déjà, Seigneur, que tu as sauvés. Merci parce que tu es venu dans le monde, la lumière. Par cette lumière, la vie. Merci parce que tu nous as laissé ta parole. Ta parole qui nous parle encore ce matin, tu nous parles encore. Cette parole qui sera éternelle, qui est éternelle. Je te prie, Seigneur, puisque c'est toi qui fais tout, d'ouvrir les cœurs encore pour cette brèche que tu as faite ce matin. Je te prie que ce qui a été semé, Seigneur, croisse. Que nous ayons des oreilles pour entendre, des oreilles attentives. Que tu nous donnes un cœur, Seigneur, qui réponde à ton appel, l'appel de la croix. Ta venue, Seigneur, est proche, on le dit souvent. Mais il y a encore un aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, endurcis pas ton cœur. Parce que même si Dieu a tout fait, tu as toi à saisir. Aide-nous, Seigneur, comme cette personne qui avait la main qui ne pouvait pas déplier. Guéris-nous de notre infirmité, Seigneur, afin que nous pourrons tendre ce matin nos mains et recevoir. Merci encore de nous parler encore chaque jour. Merci pour tout, Seigneur. Amen.